Voilà, pour moi aussi, c'est une joie d'être avec vous et de retrouver un bon nombre de visages. Ça fait maintenant quelques années que nous venons en Suisse romande plusieurs fois par an, et donc on se sent un peu chez soi en Suisse romande. Voilà, je dois dire que lorsque on m'a proposé d'aborder le sujet, Anthony peut être témoin, j'ai répondu oui rapidement. D'habitude, quand on propose quelque chose, je prends du temps avant de dire oui. Et j'ai dit oui parce que je crois que c'est la première fois qu'on me demande de faire une conférence sur les fondements de l'éthique. La plupart du temps, on me demande sur un point précis. Alors que là, au risque de vous décevoir, en tout cas avant les questions, hein, mais je ne vais pas aborder, ce n'est pas le but, tel ou tel point hyper précis de l'éthique, telle question chaude, etc., mais plutôt la question de savoir comment, quand on est chrétien, aborder une question éthique et essayer de construire un raisonnement éthique, essayer de finir par avoir une position éthique. Et c'est un sujet rarement traité, me semble-t-il. Alors, j'ai dit oui vite, et comme souvent quand on dit oui vite, on réfléchit un peu après, et c'est après qu'on se demande comment on va faire tenir ça en une heure. Donc voilà, si jamais vous trouvez que j'ai pas bien réussi à faire tenir ça dans une heure, prenez le livre dont il était question. Toute la première partie, au fond, traite ce sujet, mais alors avec une ampleur que je ne pourrais pas aborder. Alors, une petite question préalable, une petite remarque préalable, qui est toujours intéressante, c'est à qui s'adresse-t-on quand on parle d'une éthique chrétienne? C'est un sujet qui peut paraître anodin, mais ce n'est pas anodin. Est-ce qu'on s'adresse à des chrétiens engagés, à des personnes qui veulent être disciples de Jésus-Christ et qui essaient de vivre selon l'enseignement de l'Écriture, de la Révélation, etc. Ou bien est-ce qu'on va s'adresser à la société tout entière pour essayer de donner un point de vue chrétien? Et là, il me semble qu'il y a une différence assez grande. Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est vraiment l'éthique que j'appellerais vraiment chrétienne, c'est-à-dire l'éthique chrétienne pour des chrétiens, c'est-à-dire comment vivre, quelle manière de vivre est une manière cohérente avec la foi chrétienne. Et puis il y a une deuxième dimension je peux répondre à des questions, mais que je ne voudrais pas traiter vraiment ce soir, c'est l'éthique sociale, c'est-à-dire quand on est dans une société comme la vôtre en Suisse ou la nôtre en France, revient au même, c'est-à-dire une société pluraliste, plurielle, avec des gens qui sont chrétiens de 36 manières et pas chrétiens de encore plus de manières, comment faire pour avoir un témoignage chrétien dans cette société, mais en sachant qu'on s'adresse à une société qui n'est pas spécifiquement chrétienne. Donc voilà, ce dont je vais parler, c'est vraiment une éthique chrétienne pour les chrétiens. Alors vous allez peut-être me dire, si vous connaissez un peu les églises évangéliques, mais alors si vous voulez vous adresser aux chrétiens, c'est tout simple. Il suffit d'être fidèle à la Bible. Alors, ce n'est pas faux, mais c'est le genre d'affirmation dont on ne se rend pas toujours compte que ça ouvre, qu'elle ouvre plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Parce que dans la pratique, depuis toujours, vous avez des gens qui, tout en voulant être complètement fidèles à l'Écriture, ont eu des positions complètement différentes et diamétralement opposées. Si on veut simplement penser à l'époque de la Réforme, hein, Calvin voulait être pleinement fidèle à l'Écriture. Les anabaptistes voulaient être pleinement fidèles à l'Écriture. Hein, les deux disaient sola scriptura, sans l'ombre d'un problème. Et sur plein de sujets, ils avaient des positions radicalement différentes. Les uns pouvant faire pression sur les personnes pour qu'ils soient orthodoxes, on pourrait dire, hein, les autres étant radicalement non violents. Mais on pourrait trouver plein de sujets. Aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui, au nom de l'Écriture, vont défendre totalement la peine de mort, et d'autres personnes qui, au nom de leur foi chrétienne et de l'Écriture, vont être des adversaires acharnés de la peine de mort. Alors ça ne veut pas dire du tout que je crois qu'il faille se dégager de l'écriture. Mais ça veut dire qu'il faut essayer de réfléchir à la manière dont on la lit. Et alors ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans l'écriture, vous avez énormément de livres qui ont été écrits dans des périodes radicalement différentes. et dans des conditions historiques totalement différentes. Donc toute l'écriture est révélation de Dieu, qui se déroule dans l'histoire, mais ça ne veut pas dire que toute l'écriture est à prendre au premier degré par chacun, et par nous en particulier. Et au fond, c'est tout simple, parce que dans l'écriture, si vous regardez bien, vous verrez, vous avez sur certains sujets éthiques des positions assez fortement différentes si vous prenez tel passage du Lévitique ou telle parole de Jésus ou de l'apôtre Paul. Donc ça, c'est la première grande raison. Il y a une autre raison qui est tout à fait... que vous pouvez facilement imaginer. C'est que parmi les sujets, les questions éthiques que nous nous posons, il y en a une très grande part qui n'est par définition pas traitée telle quelle dans l'écriture. Aujourd'hui, en France, vous savez, il y a les révisions de lois bioéthiques et on se pose des tas de questions sur la procréation médicalement assistée et beaucoup d'autres choses. Si vous cherchez dans l'écriture la réponse de Dieu, est-ce qu'on peut faire un bébé avec un spermatozoïde et des ovules dans une éprouvette? Voilà, je ne sais pas dans quel livre vous allez trouver la réponse immédiate. Alors, je crois que la réponse, elle va partir de l'écriture, elle va être en lien avec l'écriture, mais ce n'est pas simplement comme ça, en ouvrant le texte biblique, que nous allons trouver. Donc voilà, ce que je voudrais essayer de faire, c'est dans un premier temps, essayer d'abord de faire un survol un peu des grandes parties éthiques, on pourrait dire, de l'écriture. Montrer un peu la diversité, montrer la différence, et puis essayer de réfléchir sur comment lire la Bible. Ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est en quelque sorte lire la Bible en relief. Quand on dit, vous savez, moi je crois à la Bible, toute la Bible, rien que la Bible, on a envie de dire amen, mais comment vous faites en pratique? Comment on va... Et en pratique, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui considérait qu'il devait mettre en pratique complètement tous les textes bibliques de la même manière. Je n'ai pas encore rencontré de chrétien évangélique dans la fraie, ni même ailleurs, qui pratiquait des sacrifices réguliers. Or, c'est dans l'Ancien Testament, simplement, c'est daté d'une certaine manière. Donc voilà, comment lire l'Écriture. Et puis, la deuxième partie, et j'espère ne pas dépasser le temps, la deuxième partie, c'est essayer de vous montrer simplement comment faire quand on est devant un sujet éthique. Au fond, quelles sont les grandes lignes de la démarche à suivre. Au fond, j'aimerais qu'ensuite vous partiez de là en vous disant, ben voilà, si un jour j'ai à réfléchir sur telle ou telle question, j'ai un peu un déroulement, j'ai un peu les grandes pistes que je peux suivre. Alors, premièrement, un survol de l'éthique biblique. Alors, vous allez bien sûr avoir l'éthique de l'Ancien Testament et l'éthique du Nouveau Testament. Et on pourrait dire ça même de manière assez grossière, mais dans l'Ancien Testament même, vous avez au fond trois grands types de discours éthiques. Je vous dis les trois grands types, puis on va y revenir. Au fond, il y a la loi, les prophètes et la sagesse. Hein ? La loi, le Pentateuque en particulier, les prophètes, tous ces prophètes qui, tout au long de l'histoire d'Israël, vont rappeler la volonté de Dieu. Et puis les livres de sagesse, on pourrait penser aux proverbes évidemment, l'Ecclésiaste, Job, etc., qui abordent l'éthique sous un angle un peu différent. Donc d'abord la loi. L'éthique, donc la question du comportement, hein, quel comportement dois-je avoir, quel type... L'éthique au fond, je vous dis ça en plus quand même parmi les préalables, globalement répond à deux questions différentes. Une des deux questions, c'est, un Suisse, un de vos compatriotes avait écrit un excellent petit livre sur le sujet il y a quelque temps, c'est « Que dois-je faire pour bien faire ?» hein, « Que faire pour bien faire ?»« Quelle position dois-je prendre dans telle ou telle situation ?» Et quand on pense à l'éthique, c'est en général à cet aspect-là de l'éthique qu'on pense. Mais il y a une autre dimension, dont je parlerai moins aujourd'hui, mais qui est aussi une dimension très importante de l'éthique, c'est quelle personne dois-je devenir ? C'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. C'est quel type d'être humain suis-je appelé à devenir ? Alors, quand on pense en général à la Bible, très souvent, surtout les gens qui ne connaissent pas trop la Bible, la première chose qu'ils pensent quand il est question de l'éthique, ce sont les 10 commandements. Hein, c'est le texte fondateur. Mais vous savez bien que tous les livres de la loi, dont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ce Pentateuque, tout ce début de l'Écriture, au fond, une énorme partie des textes sont des textes de loi, sont des textes qui disent comment se comporter, qui disent ce qui est juste. Et c'est vrai que la foi de l'Ancien Testament est une foi qui est beaucoup plus centrée sur le « tu dois faire » que sur le « tu dois croire ». Hein, c'est moins une confession de foi. Bien sûr, il y a une confession de foi en un Dieu unique, hein, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Mais fondamentalement, l'Alliance est basée sur une loi, sur un... Le but, c'est de sanctifier le Dieu saint par un comportement conforme à sa volonté. Alors, vous avez tout un ensemble de codes de loi. Dans le livre, vous pouvez voir ça en détail. Hein. Le décalogue, qu'on va retrouver deux fois, mais aussi d'autres textes, livre de l'Alliance, loi sur les sacrifices, loi sur la sainteté, etc., que vous trouverez dans le Deutéronome, Exode, Lévitique, etc. Et le plus célèbre de ces textes, c'est le texte des 10 commandements. C'est une sorte de condensé pédagogique des principes essentiels qu'on va trouver dans la loi. Je vous le rappelle juste pour ceux qui ne l'auraient pas tout à fait en mémoire. Hein. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, etc. Tu ne te prosterneras pas devant elle. » Je saute hein, les passages. « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Souviens-toi du jour du repos. » Fais de ce jour du repos un jour saint, pendant 6 jours tu travailleras, et le 7e jour tu te reposeras. Honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, etc. Voilà. Donc un ensemble... Un texte qui nous montre, au fond, le comportement que le croyant, le juif, est appelé à avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut jamais, dans l'Ancien Testament, dissocier l'Alliance de la loi, la loi de l'Alliance. La loi n'est pas simplement un texte qui tombe du ciel comme ça, c'est il est lié à la parole de Dieu qui est le Dieu libérateur. Rappelez-vous, première parole de ce texte, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Hein » C'est d'abord, Dieu est d'abord un Dieu libérateur, mais ce Dieu libérateur donne une loi pour permettre à son peuple de se comporter d'une certaine manière. Alors, juste une remarque. Il faut toujours se rappeler que quand il est question de la loi, et la loi va parler de beaucoup de choses et il y aura la peine de mort pour beaucoup de choses, etc. Il faut se rappeler que la loi est l'expression de la volonté de Dieu adaptée à un peuple. C'est-à-dire que c'est une loi politique, c'est une loi civile, c'est une loi qui s'adresse à un peuple tout entier dans des conditions particulières. Et nous verrons plus loin que le cadre de cette loi fait aussi que sa pertinence pour nous dans certains cas, peut-être limité et corrigé par ce qui viendra ensuite. Et vous verrez que l'enseignement de Jésus va reprendre la loi, mais va souvent dégager l'esprit de la loi de la lettre de la loi. Essayez de montrer, Jésus va montrer quelle est l'intention de Dieu derrière la loi qu'il donne à son peuple. En tout cas, rappelons-nous que la loi, dans l'Ancien Testament, est un chemin de vie, que c'est au fond, le chemin que Dieu montre à son peuple pour un comportement juste. Donc, première chose, la loi. Deuxième chose, deuxième grande catégorie de textes éthiques, ce sont les prophètes. Vous vous rappelez, les prophètes, la dimension prophétique, on va la trouver très vite. Hein, on voit déjà les prophètes dans l'Ancien Testament autour de Moïse déjà. Hein. Mais tout au long de l'histoire d'Israël, il va y avoir des personnes envoyées par Dieu, inspirées par Dieu, qui vont rappeler au peuple quelle est l'intention de Dieu. Et qui vont, j'allais dire engueuler, je cherche le terme plus correct pour une conférence, mais qui vont en tout cas s'adresser aux dirigeants, s'adresser aux prêtres, de manière très forte, très véhémente, pour les rappeler à un comportement juste. Hein. On voit que dans l'Ancien Testament, la tentation d'Israël, et on regarde l'histoire de l'Église, ou même notre propre histoire, c'est un peu la même chose, hein. La tentation, c'est toujours de s'éloigner de la volonté de Dieu. Et quand le peuple s'éloigne de la volonté de Dieu, au bout d'un certain temps, il y a des prophètes qui sont là pour les rappeler à l'ordre et pour les inviter à revenir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'aspect social est très très fort chez les prophètes. Et très souvent, on voit les prophètes s'indigner auprès des grands, auprès des riches, auprès des puissants, de la manière dont ils écrasent le pauvre, dont ils méprisent l'étranger, etc. Donc, la loi, les prophètes, et puis troisième partie de l'Ancien Testament, c'est la sagesse. C'est celle qui nous est peut-être le moins naturelle, alors que que nous connaissons le moins, alors que paradoxalement, c'est peut-être pour la pensée de l'époque, si on pense à la pensée grecque par exemple, la dimension la plus classique. C'est au fond toute la littérature de sagesse, où là, on va s'intéresser, et oui, les philosophes grecs et beaucoup d'autres sont beaucoup plus à l'aise avec l'Ecclésiaste, je pense, qu'avec le Décalogue, hein, mais vont s'intéresser à la personne que nous sommes appelés à devenir. Vous vous rappelez le livre des Proverbes, avec tout un ensemble de conseils qui sont, je dirais, un mélange de sagesse biblique, de sagesse aussi qu'on trouve un peu partout. On va retrouver des enseignements semblables dans la pensée égyptienne, dans d'autres pensées de l'époque, où se mêle, au fond, la volonté de Dieu, mais aussi le bon sens, etc. Et le but, c'est d'acquérir un certain nombre de qualités, l'amour, la bonté, la sincérité, la droiture, la maîtrise de soi, etc. Et là, on trouve l'éthique des vertus dont je vous parlais tout à l'heure assez largement. Je vous lis juste, mais vous avez ça sans doute sûrement à la mémoire, le début du livre des Proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Et donc ces trois approches sont complémentaires. Hein ? Trois approches qui s'articulent, qui ne sont pas du tout contradictoires les unes avec les autres, mais qui expriment les différentes facettes de la volonté de Dieu pour son peuple. Tout cela, donc, c'est l'éthique que nous allons trouver dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on va retrouver aussi des situations qui peuvent être des situations extrêmement différentes. Et parmi ces situations, il y a en tout cas deux qui sont fondamentales. L'une, c'est l'enseignement de Jésus. Et ensuite, l'enseignement des apôtres. Et quand je dis qu'il y a une différence fondamentale, alors, il y a une différence déjà entre Jésus et les apôtres, c'est clair, mais il y a aussi une autre différence. Il y a toute une partie, l'enseignement de Jésus, plus le début des actes des apôtres, par exemple, où tout l'enseignement est un enseignement nouveau, qui apporte la nouveauté de l'évangile à Israël, mais qui est justement dans le contexte d'Israël. C'est-à-dire que les gens à qui Jésus parle, sont des Juifs. Sont des gens qui, sauf exception, hein, on voit des exceptions dans l'Évangile, mais sont des gens qui, dans leur tête, ont déjà la loi de l'Ancien Testament avec un certain nombre de catégories. Et vous savez que l'adversaire premier dans les dialogues, c'est le pharisien. Le pharisien, c'est justement le Juif le plus pieux et le plus rigoureux qui essaie de mettre en pratique la loi de l'Ancien Testament. Et puis après, on va avoir d'autres textes, alors, Paul, mais aussi les épîtres en général, alors avec des nuances, mais Paul en particulier, où là, on voit la volonté d'annoncer le même évangile, d'annoncer le même enseignement, mais à des gens tout différents, à des gens qui fondamentalement sont de culture grecque, et pour qui la loi de l'Ancien Testament n'a rien de naturel, n'a rien de normal. Donc l'arrière-plan est plutôt stoïcien, pensée grecque ambiante ou païenne, plutôt que juive. Donc deux attitudes là et deux discours assez différents. L'enseignement de Jésus. Donc la parole de Jésus, elle vient en quelque sorte se placer au sein même du peuple qui vit de la loi de Dieu dont nous venons de parler. Et c'est intéressant parce que, il suffit de lire l'Évangile pour s'en rendre compte, souvent Jésus va s'opposer aux pharisiens. Et les pharisiens vont être choqués. Les pharisiens, qui sont des gens qui souvent veulent honnêtement être fidèles à l'Écriture, ils vont être choqués par la parole de Jésus qui leur paraît transgressive, qui leur paraît libérale, qui leur paraît en tout cas pas conforme à la loi. Jésus va se situer pourtant dans une situation par rapport à la loi qui est une situation complexe, il faut reconnaître. Il dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, il précise bien qu'il se veut fidèle à la loi et aux prophètes. Simplement, il veut accomplir cette loi, et accomplir, c'est vrai en grec comme en français, peut avoir deux sens. Vous savez, quand on dit « accomplir la loi », ça peut vouloir dire « mettre la loi en pratique ». Et Jésus va être, d'une certaine manière, le seul à mettre la loi véritablement en pratique, puisqu'il est le seul sans péché. Mais « accomplir », ça peut vouloir dire aussi « amener à son accomplissement », c'est-à-dire « amener à la perfection, la loi à la perfection ». C'est vrai qu'il ne vient pas pour abolir, mais en même temps, si on se met un instant dans la peau d'un pharisien, il manifeste une souveraine liberté face à la loi, souveraine liberté qui blesse, je crois, assez souvent, la volonté de fidélité des pharisiens. Vous vous rappelez sa liberté à l'égard des personnes qui sont jugées impures. Il se laisse toucher par des gens, comme disaient nos traductions d'autrefois, des gens de mauvaise vie, ou des prostituées, ou des gens qui sont... Des collaborateurs, on pourrait dire, de l'occupant romain, etc. Il a une liberté par rapport au sabbat. Il a une liberté par rapport à des règles précises qui choquent la notion de pureté des pharisiens. On a l'impression que Jésus va dégager l'esprit de la loi, de la lettre, dans lesquelles les casuistes d'Israël l'ont enfermé. Il remet les choses à leur place. Vous vous rappelez cette parole qui, je crois, est très, très importante pour comprendre la démarche de Jésus. Il dit ceci, « Allez comprendre ce que signifie « je désire la miséricorde et non les sacrifices » ou « je désire la bonté et non les sacrifices ». Les sacrifices, c'est la rigueur dans l'obéissance stricte à la loi. Et Jésus dit, « Mais ce qui m'intéresse, c'est la bonté ». Ce n'est pas quelque chose de jamais vu dans l'Ancien Testament. Des prophètes ont déjà parlé dans un sens proche. Simplement, avec Jésus, ça prend une radicalité que même Ésaïe n'avait sans doute pas. Mais il va plus loin. Il y a des moments où il prend le contre-pied de la loi elle-même. Alors, il y a un texte qui est très connu et sur lequel j'aurai l'occasion peut-être de revenir. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, le récit de la femme adultère. Tout le monde le connaît. En même temps, c'est un texte compliqué. Il n'est pas tellement compliqué en tant que tel, mais c'est un texte qui probablement n'a pas été écrit, tout le monde a l'air d'accord, je crois, par Jean, et qui en même temps est un texte canonique. Vous vous rappelez, dans ce texte, les pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Bon, ils n'amènent que la femme, on ne sait pas où est passé l'homme qui est peut-être passé par la fenêtre, etc. Et ils demandent à Jésus pour lui tendre un piège, c'est clair, ce n'est pas du tout de la question honnête pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme, puisque Moïse nous a demandé de la lapider, ce qui n'est pas faux du tout, ce qui est tout à fait pertinent. Et vous rappelez les réactions de Jésus très complexes. Très complexes parce que nous, au fond, j'ai l'impression... nous aurions deux réactions naturelles dans une situation pareille. Vous auriez une partie des gens qui diraient « Mais oui, appliquons la loi, lapidons, un peu comme les pharisiens. » Et puis, vous avez une autre partie qui dirait « c'est pas grave, on va pas en faire tout un plat, la société a évolué, etc. Jésus n'a pas cette attitude. Hein. Jésus va d'abord renvoyer les pharisiens, à leur les gens qui sont là, à leur propre conscience. Hein. Il dit, ok, que celui qui n'a jamais péché parmi vous, puisqu'il s'agit d'un péché, là, hein, chez cette femme, donc celui parmi vous qui n'a pas péché, c'est lui quand même qui devrait jeter la première pierre. Et il nous est dit que, à commencer par les plus âgés d'entre eux, chacun se retire. C'est intéressant parce que c'est un des rares textes où on a l'impression que les gens âgés sont plus sages que les jeunes. Je commence à être sensible à ce genre de choses. Et puis après, Jésus va trouver la femme et lui dit cette phrase un peu très impressionnante, je trouve, et très pédagogique pour nous. « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Il ne lui dit pas qu'elle n'a pas péché. Il ne lui dit pas que l'adultère, c'est pas grave, c'est très bien. Il lui dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors c'est vrai que là, on a l'impression que Jésus est plus souple que la loi de l'Ancien Testament. Mais il ne faudrait pas croire que c'est toujours comme ça. Il y a d'autres textes où on a l'impression du contraire, où Jésus est plus strict que la loi de l'Ancien Testament. Matthieu 19, là, on vient trouver Jésus. Qu'est-ce que tu en penses? Il y avait tout un débat entre pharisiens, entre rabbins, etc. Est-ce que, voilà, le fait de divorcer de sa femme et de répudier sa femme, qu'est-ce que tu en penses? Et là, Jésus va reprendre l'Ancien Testament, cette idée que l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ils seront une seule chair, et il va leur présenter une position beaucoup plus rigoureuse sur le divorce que celle qui était largement pratiquée, en tout cas, en Israël. Et alors, c'est intéressant aussi parce que, dans ce texte, Jésus va donner une raison. Il va expliquer pourquoi il prend une position différente de celle de l'Ancien Testament et de celle de la loi. Parce que la réaction des pharisiens, c'est une réaction intelligente, ça a été de dire, mais alors, si tu as raison, pourquoi est-ce que Moïse nous a permis de répudier nos femmes? On a envie de lui dire, bonne question. Moi aussi, j'aurais envie de poser ce genre de question. C'est très cohérent. Et la réponse de Jésus est très passionnante. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis ça. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus, là, et il le fait dans bien d'autres passages, c'est comme si Jésus dégageait l'intention de la loi du texte lui-même. Hein ? Voilà quelle est l'intention de Dieu. D'accord. La loi doit être adaptée à tout le monde, donc, puisque vous êtes ce que vous êtes, le divorce est autorisé, mais l'intention de Dieu, ça n'est pas ça, et voilà quelle est l'intention de Dieu. Et alors, cette démarche-là, on la retrouve tout au long du Sermon sur la montagne, où Jésus va opposer très fréquemment le « il vous a été dit », vous avez lu dans la loi, ou bien même, quelquefois, vous avez entendu dans votre tradition, mais moi, je vous dis. Il vous a été dit, tu ne tueras pas, et c'est vrai qu'avec un petit effort, on y arrive, en gros, mais moi, je vous dis, celui qui a de la haine pour son prochain, celui qui l'insulte, c'est comme si il l'avait tué, et il mériterait la même chose. C'est comme si Jésus, et pareil pour l'adultère, il vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Comme si Jésus dégageait dans le mouvement pécheur, on pourrait dire, la racine. Et montre que c'est d'abord dans le cœur que ça se met en route, avant de se traduire dans la pratique. Le centre de tout, dans l'enseignement de Jésus, le centre de tout, c'est l'amour. Et quand je dis ça, j'ai conscience de ne pas dire quelque chose de stupéfiant pour quelqu'un qui connaît l'Évangile. Hein. Mais c'est le centre, c'est le cœur de l'enseignement de Jésus. Et alors, c'est un amour qui est d'abord un amour du prochain. Hein, vous rappelez ce double commandement que Jésus va reprendre, double commandement qu'on trouve dans la loi, mais il va dire le grand commandement, c'est celui-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc il dit... Voilà, le cœur de la loi, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, les deux étant complètement indissociables. Et cet amour, non seulement c'est l'amour du prochain, c'est l'amour. Et alors le prochain, là aussi, un pharisien intelligent va poser la question qu'on a envie de poser, mais c'est qui mon prochain ? En posant la question, au fond, la question derrière la question, c'est jusqu'où est-ce que je suis forcé d'aimer et à partir de quand est-ce que je peux tranquillement et en toute bonne conscience arrêter d'aimer ? Comme nous sommes tous de bons chrétiens, nous n'osons pas poser une question pareille. Parce que nous savons bien que ce n'est pas une bonne question et que Jésus a déjà donné la réponse. Mais c'est quand même une excellente question. Et on se pose aussi ce genre de questions. Et vous rappelez, Jésus répond en donnant une parabole qui est probablement une des deux ou trois paraboles les plus célèbres du Nouveau Testament. C'est la parabole du bon samaritain. Où il raconte une histoire tout à fait étonnante d'un juif qui se fait tabasser sur la route de Jérusalem à Jéricho. Et sur cette route, ensuite, et donc les brigands le laissent quasi pour mort, il n'est pas mort, mais le laissent sur la route. Et puis va passer sur cette route des gens très bien. Un pasteur de la fraie, un prêtre catholique. Je veux dire, des gens très bien pour le judaïsme, et tout le monde est juif, là, évidemment. Jésus est juif et s'adresse à un public qui est juif. Donc, des gens très bien qui, finalement, n'ont pas envie de s'arrêter, n'ont pas envie de perdre du temps, de salir leur voiture, ou je ne sais pas, si on transposait, et ils passent. Et puis, arrive, alors, quelqu'un qui est le type, j'ai envie de dire, mal sous tout rapport, mauvais sous tout rapport. Il est samaritain. Et le samaritain, pour un juif, c'est pire qu'un païen. Parce que le païen, il est excusable. Il ne sait pas, il n'a pas eu la chance d'avoir la loi. Tandis que le samaritain, c'est quelqu'un qui a eu la loi, qui l'a tort aux yeux des juifs. Donc vraiment, samaritain, c'est un type impur, c'est quelqu'un de pas bien, etc. Et le samaritain en question, il va s'arrêter, il va descendre de son âne, il va soigner le blessé, il va le mettre sur la monture, il va l'amener jusqu'à l'hôtellerie, il va payer pour le blessé, etc. Et au fond, Jésus dit, mais au fond, qui ? La question n'est pas de savoir qui est mon prochain, la question c'est de savoir comment est-ce que je peux devenir le prochain de celui qui est dans le besoin. Et le Rocard n'aurait pas tout à fait bien compris. À un autre endroit, il va même parler de l'amour de l'ennemi. Hein ? Donc vraiment, un amour qui est un amour radical. C'est intéressant parce que dans un de ses premiers livres, je crois en tout cas le premier qui a été traduit en français, Martin Luther King a fait tout un commentaire sur cette parabole du mot samaritain, montrant que l'amour dont parle Jésus, ce n'est pas un amour gentil, paisible, sympathique, c'est un amour radical, excessif, qui va jusqu'au bout et qui est un amour risqué aussi. Et Martin Luther King, je dirais, a mis ça en pratique avec un amour risqué au point d'y laisser sa vie. On peut dire que pendant la période où Jésus a été sur Terre, c'est comme si l'éthique était incarnée, j'ai envie de dire, dans une personne. C'est-à-dire que ce qui compte quand on parle d'éthique autour de Jésus, c'est non seulement l'enseignement de Jésus, mais c'est le comportement de Jésus, c'est la manière dont il a vécu, la manière dont il s'est comporté. Alors, je vous disais qu'il y avait une autre partie, très importante aussi, c'est l'enseignement des apôtres. Les disciples, vous vous rappelez, sont d'abord un petit groupe de juifs autour de Jésus. Mais tous leurs problèmes sont des problèmes internes à Israël. Hein, c'est comment faire pour... comment comprendre bien la loi, comment suivre Jésus et comprendre Jésus dans sa manière d'être libre par rapport à l'Écriture. Ils vont fonder l'Église. Il y a la première communauté à Jérusalem, et puis très vite, l'Église va se répandre dans le bassin méditerranéen. Donc on va passer d'une communauté de Juifs à une communauté de disciples de Jésus, pour lesquels, j'ai envie de dire, la racine juive devient un problème. Et vous vous rappelez, ça va être une des grandes questions, et on pouvait tout à fait imaginer que l'Église du début se casse, en quelque sorte, autour de cette question. Vous vous rappelez même qu'à certains moments, Paul et Pierre se sont un peu affrontés, et il a fallu qu'il y ait, alors, selon les Églises, on va dire, un congrès, un synode, un concile, je ne sais pas, à Jérusalem, avec les apôtres, pour régler cette question et pour accepter qu'on puisse être chrétien sans être juif. Hein, puisque pour les tout premiers chrétiens, être chrétien, ça voulait dire d'abord devenir juif. Un païen aurait dû d'abord devenir juif, donc se faire circoncire, pour ensuite être chrétien. Et Paul a plaidé pour que justement on puisse devenir chrétien autrement. Mais ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des communautés dont la culture est tout autre, dont la culture fondamentale est la culture gréco-latine. Et donc les questions ne sont plus les mêmes. Les questions ne sont plus comment le rapport à la loi, mais par exemple, que faire avec les viandes sacrifiées aux idoles que nos voisins de quartier nous invitent à manger ? Hein, quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait ? Pensez bien qu'un juif à Jérusalem ne s'est jamais posé ce genre de questions, simplement parce qu'il n'y avait pas de viande sacrifiée aux idoles. Et puis il y a une chose aussi qui va changer, c'est que l'Église va commencer à s'installer dans la durée. L'éthique des premiers disciples de Jésus, c'est très radical. Hein. Quand Jésus dit « suis-moi », ça veut dire « suis-moi ». Ça veut dire « tu laisses tes filets de pêche, tu laisses ta famille, etc. et tu me suis physiquement ». Et vous vous rappelez, la première église de Jérusalem, les gens continuent un peu sur cette lancée. Hein, ils vendent tout ce qu'ils avaient et puis ils le mettent en commun. Ça marche, j'ai envie de dire, quand on est persuadé que c'est bientôt fini, qu'il va se passer des choses extraordinaires, etc. Et puis, l'église commence à rentrer dans la durée. Le temps commence à passer. Et on va passer d'une communauté provisoire, en quelque sorte, à la réflexion de l'apôtre Paul en particulier sur comment faire pour durer dans le temps, pour continuer. Et on va voir des enseignements évoluer. On voit par exemple cette volonté de solidarité où on met tout en commun à l'église de Jérusalem, se transformer petit à petit dans un autre enseignement plus modéré que vous trouverez par exemple dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 8, hein, tout un développement de Paul autour de la... Vous savez, de l'argent qui était nécessaire de récolter à cause de la souffrance de l'Église de Jérusalem, pour soutenir l'Église de Jérusalem. Et ça va être un enseignement sur la solidarité et sur l'égalité. Il ne s'agit pas de tout vendre, on doit bien continuer à vivre, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de pauvres parmi nous et que les plus riches puissent donner aux plus pauvres, etc. Paul aussi... Et les autres auteurs du Nouveau Testament vont envisager la transformation progressive que la venue de l'Esprit suscite dans la totalité de l'existence. Et on va retrouver la dimension des vertus qu'on avait déjà dans l'Ancien Testament. Le texte peut-être le plus classique qu'on puisse imaginer là-dessus, c'est le texte de Galates 5, verset 22, vous savez, sur le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, etc. Et au fond, on va retrouver là, et dans beaucoup d'autres endroits, des choses très semblables à celles du serment sur la montagne. Alors voilà, très rapidement, hein, vous savez, c'est un survol satellite, hein, vous voyez les grands espaces, mais on voit des différences quand même assez notables là-dedans, entre les manières de dire l'éthique. Alors, comment, pour nous, comment approcher cette éthique de la révélation biblique ? Comment voir les textes bibliques en relief ? Si nous croyons que Jésus est bien la parole faite chair, la deuxième personne de la Trinité, Dieu venu parmi les hommes, alors Jésus est l'expression même de la nouvelle création de Dieu. Il est l'expression même de la volonté de Dieu. Sa vie, sa parole, correspond donc à l'expression parfaite, complète de la volonté de Dieu. Et je dirais que Jésus, donc son enseignement et sa vie, sont le centre, le sommet de la révélation. Et donc, je pense que, et alors en disant ça, je me sens très chrétien et pas particulièrement original, hein, mais ça veut dire que l'enseignement de Jésus et sa personne sont pour nous l'autorité dernière. Nous sommes d'abord les disciples de Jésus. Et tous les autres textes de l'Écriture doivent être lus, doivent être compris, doivent être réfléchis à la lumière de cet enseignement de Jésus. Alors l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, bien sûr, il reste capital. Il reste l'expression de la volonté de Dieu dans un temps et dans un contexte donné. Nous n'appartenons plus à ce contexte. Nous ne sommes plus dans la même situation, mais nous pouvons recevoir avec reconnaissance cet éclairage. À condition que nous nous rappelions toujours que nous devons lire l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ, à la lumière de la lecture que Jésus va en faire. Parce que c'est cette lecture qui est pour nous normative. Et je pense qu'il serait faux de recevoir directement pour nous tel texte de l'Ancien Testament en disant « parce qu'il y a un verset de l'Ancien Testament, je le prends pour moi de A à Z, enfin complètement », sans me poser la question « comment est-ce que Jésus a vu, a lu, a compris ce texte ?» Alors c'est très important parce que l'Ancien Testament nous dit aussi, nous rappelle la création de Dieu, nous rappelle l'ordre créationnel de Dieu. Rappelez-vous, quand il a été question de mariage et de répudiation, Jésus repart de l'Ancien Testament en disant « au commencement, avant la loi, au commencement, il n'en était pas ainsi ». Et voilà ce que Dieu a fait au commencement. Donc ça, c'est la première chose. Ça nous rappelle l'ordre de la création de Dieu. Et puis aussi parce que l'Ancien Testament peut nous apporter toute une sagesse au niveau social. L'Ancien Testament, c'est une loi qui vise non pas l'individu seul, mais la société dans son ensemble. Et je pense qu'il y a une sagesse là qui est tout à fait, à la lumière de Jésus-Christ toujours, acceptable pour nous et très enrichissante pour nous. Autre raison pour laquelle l'Ancien Testament est absolument fondamental, c'est parce qu'on ne comprendra jamais rien à l'éthique de Jésus si on n'a pas une certaine idée de celle de l'Ancien Testament. Parce que Jésus est pétri de l'Ancien Testament, qui va continuer les textes de l'Ancien Testament, ou en prendre le contre-pied, mais en tout cas, qui est toujours lié à cela. Donc l'Ancien Testament, à prendre avec reconnaissance, mais toujours à la lumière de l'enseignement de Jésus. Alors ensuite, il y a l'enseignement des apôtres, les épîtres. Et les épîtres, pour nous, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous montrent comment l'enseignement de Jésus peut être interprété concrètement et mis en pratique dans un contexte qui n'est plus celui de Jésus. Pour être honnête, dans un contexte qui n'est pas non plus le nôtre. La Suisse du XXIe siècle est assez éloignée de la civilisation, on pourrait dire, gréco-latine de l'époque de Jésus. Mais c'est comme s'il y avait en quelque sorte déjà une piste qui était montrée. On voit déjà comment, à partir de l'enseignement de Jésus, on va proposer des interprétations. Et nous pouvons continuer en quelque sorte ces lignes. Et puis, encore un point, je crois, très important, toujours nous rappeler quand nous réfléchissons sur l'Écriture, que nous ne sommes pas les premiers à réfléchir sur l'Écriture. C'est quelquefois peut-être un de nos petits défauts évangéliques, de croire qu'il y a la Bible et nous. Et encore quelquefois, la Bible et moi. Voilà, il faut aussi se rappeler que entre la Bible et moi, il y a 2000 ans de gens sages et intelligents qui ont essayé de la lire dans la foi et autant qu'on puisse le penser avec l'aide du Saint-Esprit autant que nous. Donc, la manière dont l'Église, dont les Églises, dont les chrétiens ont interprété un certain nombre de textes est, je crois, à prendre en compte. Non pas comme quelque chose de décisif, parce qu'ils se sont souvent trompés, comme peut-être nous nous trompons aussi. Mais si une position a été tenue par les chrétiens pendant des siècles, avant d'en changer, je crois qu'il vaut mieux vérifier qu'on ait de bonnes raisons. Nous ne sommes pas les plus intelligents brutalement comme ça d'une seconde à l'autre dans l'histoire de l'Église. Et avant, il n'y avait que des crétins qui ont toujours... Non, ce n'est pas comme ça. Il y a toute une tradition, je crois, que nous devons recevoir. Un dernier point peut-être avant de passer à ma dernière partie, mais quand même encore un dernier point, c'est la place du Saint-Esprit dans ce discernement. Dans la réflexion éthique, notre raison, forcément, et vous le verrez tout à l'heure, doit fonctionner. Je sais bien que quelquefois, dans certains de nos milieux, la raison ça ne fait pas très pieux et ça ne fait pas très sérieux. Hein. On préfère être guidé directement par l'Esprit-Saint. Mais Dieu nous a créés avec une intelligence. Cette intelligence, Dieu l'utilise pour que nous comprenions aussi sa révélation. Hein, l'Écriture sainte, c'est un texte qui suppose aussi une lecture intelligente. Et lorsque nous réfléchissons dans des questions éthiques, sur des questions éthiques, forcément l'intelligence doit fonctionner parce que il faut déjà comprendre la question. Hein, comprendre les vraies questions, comment les questions se posent, mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin de faire fonctionner cette intelligence, mais nous avons besoin du Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. C'est-à-dire que ça ne serait pas vrai que pour l'éthique, mais c'est vrai aussi pour l'éthique. Lorsque nous réfléchissons sur l'Écriture, nous devons réfléchir avec l'aide du même Esprit qui a inspiré cette Écriture. Et donc, nous avons aussi à nous ouvrir à cette présence de l'Esprit-Saint, qui nous permettra aussi d'aborder des questions nouvelles de manière assez sereine. Parce que c'est vrai qu'en éthique en particulier, c'est sûrement vrai en éthique plus que dans toutes les autres disciplines de la théologie, nous abordons des questions que personne avant nous ne s'était jamais posées. Quand on parle de transhumanisme, ou quand on parle de tout un tas de problèmes éthiques qui sont liés aux découvertes de la médecine, de la science, de la technique, etc., par définition, nous n'avons pas d'ancêtres qui ont déjà complètement réfléchi sur ces questions. Et donc, vous rappelez que Jésus nous a promis l'aide du Saint-Esprit, de ce paraclet, de ce défenseur, qui nous rappellera tout ce que Jésus a dit et qui nous guidera dans toute la vérité. Paul, l'apôtre, a la même démarche que Jésus quand il parle de cet esprit et qu'il dit, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, « L'homme dirigé par l'esprit juge de tout. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire ? Nous, nous avons la pensée du Christ. » Donc je crois que nous avons toujours besoin d'une pensée trinitaire. Dieu se manifeste, j'ai envie de dire, toujours à nous sous deux aspects ou de deux manières. D'une part, en Jésus-Christ, dans une révélation objective, dans l'histoire, Jésus s'est incarné, il a vécu sur terre avec nous, en tout cas parmi les hommes, parmi les êtres humains. Et donc là, il y a une dimension objective. Jésus a dit un certain nombre de choses, a fait un certain nombre de choses, s'est comporté d'une certaine manière. Et puis en même temps, il y a cette autre dimension qui est la dimension du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est présent en nous, Saint-Esprit qui est là pour nous guider, Saint-Esprit qui est, j'ai envie de dire, la dimension subjective et qui nous permet de comprendre, qui nous permet de rentrer dans une compréhension plus fine et plus profonde de cette révélation objective. D'autant plus que ce qui est visé, ça n'est pas simplement savoir que penser de tel sujet d'éthique, mais ce qui est visé, c'est aussi notre propre transformation. Hein ? Le but, c'est que nous devenions des personnes plus conformes à l'image de Jésus-Christ, plus conformes à la volonté de Dieu pour les êtres humains. Alors, je prends quelques minutes encore. Sur le sujet suivant, comment aborder pratiquement, après ce que j'ai dit, une question éthique ? Hein ? Vous êtes là et vous êtes... Voilà, il y a l'euthanasie, enfin, voilà, vous avez tous les sujets possibles et imaginables, et vous dites comment est-ce que je peux réfléchir en tant que chrétien sur cette question-là. Première chose, j'ai envie de dire, parce que je nous connais, que je projette peut-être sur vous mes turpitudes personnelles, hein, quand je dis « je nous connais », mais la première chose, je crois, c'est d'essayer de bien comprendre la question. J'ai l'impression que très souvent... C'est un peu notre défaut quelquefois. Nous avons la réponse avant d'avoir la question. Je ne sais pas très bien quelle est la question, mais je sais quelle est la réponse. Il faut d'abord creuser la question. Et c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile, très paradoxalement. C'est paradoxal parce que jamais aucun de vos ancêtres n'a eu autant de facilité pour creuser une question que nous aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet, enfin, dis-vous. Les moyens de se renseigner sont des moyens énormes. Mais c'est le paradoxal, c'est qu'en général, Internet ne nous donne que les informations qui sont d'accord avec nous. Nous ne cherchons nous-mêmes que les informations qui sont dans notre ligne. Donc, quand une question se pose, si j'ai une première question, un premier conseil à vous donner, renseignez-vous d'abord sur la question en essayant de voir, d'aller voir des sites, de lire des journaux, de lire des livres ou d'écouter des gens qui ont des positions différentes. N'allez pas vous dire qu'est-ce que pense Henri Blocher, qu'est-ce que pense la faculté de Vaud, qu'est-ce que pense l'excellent bouquin dont nous parlions tout à l'heure sur ce sujet. Essayez d'abord de comprendre la question. Parce que très souvent, les questions sont beaucoup plus complexes qu'elles ont l'air. Et en fait, il faut comprendre la complexité de la question avant d'envisager une réponse. Hein ? Quels sont les différents problèmes auxquels il faut trouver une solution ? Ou auxquels telle solution essaie de répondre ? Quel est le contexte qui a permis ce problème ? Contexte historique, social, idéologique ? Quelles sont les différentes conséquences que la solution que j'envisage risque de déclencher ? Et on voit quelquefois qu'il y a un problème qui se pose, alors on a une bonne réponse, et cette réponse va déclencher des problèmes encore plus graves que celui qu'on avait au départ. Donc prenez garde, creusez d'abord la question, essayez de comprendre, essayez de vous mettre, j'ai envie de dire, dans la peau des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est un excellent exercice pour essayer de comprendre les choses. Autrefois, on aurait dit, j'aurais dit, quand, si j'étais en France, ben voilà, s'il y a un sujet, vous achetez Le Monde, Le Figaro et l'Humanité, avec les trois, donc il y en a un qui était communiste, un qui était droite-droite, et un qui était centre, voilà. Et avec ça, on avait des idées à peu près des différentes sensibilités. Mais voilà, transposez ça en quotidien suisse, ou bien transposez ça sur Internet, essayez de réfléchir et de comprendre pourquoi les gens qui pensent le contraire de ce que vous pensez, pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent. Ça, je crois que c'est très important. Deuxième grand conseil, quand on est devant un sujet, faire attention aux personnes. Derrière les grands principes, derrière les grandes questions posées, il y a toujours des personnes, et généralement des souffrances. Hein, quelqu'un disait un jour, l'avortement, ça n'existe pas. Il y a des femmes qui avortent. L'euthanasie, ça n'existe pas. Il y a des gens qu'on aide à mourir. Hein, mais c'est toujours des personnes, c'est toujours des situations réelles. Donc il faut toujours faire attention aux personnes. Et là aussi, il faut faire très attention. Parce que nous sommes manipulables. Et plus les techniques d'information se développent, plus les techniques de manipulation se développent glorieusement. On parle maintenant de fake news, comme c'était une nouveauté, mais je veux dire, des fausses informations, il y en a toujours eu. Et le problème, c'est que très souvent, on réfléchit à certaines personnes qui sont dans cette situation, mais pas forcément à toutes. Et chaque camp va défendre les intérêts de telle ou telle personne. Il y a très longtemps, je prends des exemples, reculer dans le temps pour ne pas déclencher trop de passion, mais vous pouvez très facilement transposer. Il y a très longtemps, vous savez, très longtemps, pas si longtemps que ça, il y avait la question de l'avortement qui était la grande question clé des débats de société. Et alors, vous aviez deux camps, hein, ceux qui étaient pour la vie et ceux qui étaient pour la liberté d'avorter. Et dans les deux cas, c'était des personnes qui étaient brandies. D'un côté, c'était la défense de la femme, de ses souffrances et de ses libertés, et de sa liberté. Et de l'autre, la défense de l'embryon. Et dans chaque camp, il y avait en général une sorte d'aveuglement par rapport à ce que défendait l'autre. C'est-à-dire que toutes les femmes qui voulaient avorter étaient nécessairement des femmes qui ne souffraient pas, qui ne faisaient ça par pur plaisir, etc., pour un camp. Et de l'autre côté, l'embryon, de toute manière, c'était un tas de cellules sans intérêt, etc. Donc, faites attention, dans toute question, derrière toute question, il y a toujours des personnes creusées pour essayer de savoir quelles sont ces personnes. Il y a celles qu'on voit tout de suite, il y a celles qu'on va vous présenter dans la presse, qui vont être largement développées, et puis il y a les autres. Je vous donne juste un exemple. Je marche sur des œufs parce que la situation française n'est pas exactement la même que la Suisse sur ce sujet précis. Mais en France, la question de l'euthanasie est une question qui est là aussi est une question ouverte. Chez vous, elle est déjà en partie réglée autrement. Là aussi, je me rappelle, les églises protestantes en France avaient publié deux textes qui tous les deux... Deux textes avaient des positions différentes, ce n'était pas les mêmes églises, hein, qui n'avaient pas exactement la même position. Les unes étaient plutôt pour une certaine ouverture à l'euthanasie, les autres étaient tout à fait contre. Et les deux textes parlaient de l'attention nécessaire à avoir pour les plus petits et les plus fragiles. Sauf que ce n'étaient pas les mêmes. D'un côté, les plus petits et les plus fragiles, c'était des gens en souffrance, et en souffrance réelle, qui demandaient à être euthanasiés, ou le suicide assisté, ce qui est un peu la même chose. Et puis de l'autre, les personnes les plus fragiles, les personnes en souffrance, c'était ces personnes qui finalement n'avaient pas du tout envie d'être euthanasiées, mais qui petit à petit, parce qu'ils étaient dans une situation difficile, de fin de vie, parce qu'ils étaient une charge pour la société, parce qu'ils étaient une charge pour leur famille, etc., allaient se sentir obligés de devoir demander l'euthanasie. Donc vous voyez, dans les deux cas, on prenait en compte de vraies personnes avec de vraies souffrances, je crois, ou avec de vraies fragilités. Simplement, ce n'était pas les mêmes. Donc, faire très très attention, je crois, à la réalité de la situation, comprendre bien et comprendre des personnes qu'il y a derrière. Alors, ensuite, j'ai envie de dire, il va y avoir un travail biblique à faire. Un travail biblique, non pas pour savoir qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet précis. Encore une fois, très souvent, elle ne dit pas grand-chose sur les sujets nouveaux. Pas grand-chose directement. Mais tout un travail de ratissage, j'ai envie de dire, de tout ce que l'Écriture dit qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec le sujet qui nous intéresse. Hein, quand il s'agit de l'euthanasie, mais avec la vie, avec la mort, avec... le désir de mort, avec plein de choses. Hein. Voilà, tout ce qu'on peut trouver dans l'Écriture. En sachant qu'on va recevoir des choses de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des choses qui sont liées à la sagesse, des choses qui sont liées à la loi, des choses qui sont liées à la parole de Jésus, etc. Et essayer de comprendre ces textes, comme je vous le disais tout à l'heure, en prenant en compte la totalité de la révélation à la lumière de la révélation en Jésus-Christ. Hein, en prenant Jésus-Christ comme étant, et sa vie et son enseignement, comme étant le projecteur qui permet de bien comprendre. Donc regardez comment Jésus a compris ou interprété l'Ancien Testament sur ce sujet ou sur des sujets proches pour essayer de bien comprendre. Donc voilà, on est dans une situation là qui est extrêmement difficile, je crois, mais qui on arrive à trouver beaucoup d'enseignements sur à peu près tous les sujets, je crois. Et puis la dernière question que j'aurais envie de vous dire, une fois qu'on a travaillé là-dessus et qu'on a les textes bibliques, ça va vous paraître bizarre, après ne plus s'intéresser aux éclairages bibliques particuliers, ça, vous les avez, vous avez déjà travaillé là-dessus, vous... mais le rapport à l'Évangile. Ça peut paraître bizarre, ce que je veux dire là, c'est l'évangile avec une majuscule. Pas l'évangile au sens le texte biblique de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, mais cet éclairage fondamental, permanent, qui est au centre du message de la révélation. Comment, sur telle question, le message de la miséricorde de Dieu, de l'amour du prochain, de l'amour de l'ennemi, le message de la repentance, du pardon, de l'œuvre de l'Esprit, de la transformation intérieure par le Saint-Esprit vers la sainteté, comment tout ça, ça peut s'inscrire dans la question posée ? Je crois que nous devons toujours nous rappeler que c'est ça le centre de notre foi. Et donc ça doit toujours aussi éclairer notre lecture. Dernier point, et là c'est vraiment ma conclusion. Au fond, les grandes orientations qu'on va trouver vont toujours être au nombre de deux. Vous savez, c'est une image. Hein. Aristote, donc le philosophe grec, disait que la vertu, ce n'est pas le contraire du vice, c'est une ligne de crête entre deux vices. Hein, donc c'est un équilibre difficile, fragile, un peu acrobatique entre deux choses. J'ai l'impression que la position chrétienne est toujours une ligne de crête entre deux tendances, d'un côté l'exigence et de l'autre la miséricorde. D'un côté l'exigence, c'est-à-dire la nécessité de dire le vrai, la nécessité d'appeler un chat, de dire que le péché est péché et que le mal est mal, même s'il est déguisé sous des apparences trompeuses. L'exigence, c'est l'exigence de Jésus qui a une exigence absolument radicale. Dans le Sermon sur la montagne, l'exigence, il met la barre très haut. J'ai envie de dire, il met la barre d'autant plus haut. Elle serait, la manière dont Jésus développe l'exigence serait absolument invivable s'il n'y avait pas la miséricorde et s'il n'y avait pas la grâce. Parce que quand vous avez ce niveau d'exigence, vous n'avez que deux solutions quand vous êtes quelqu'un de normalement constitué. Soit vous baissez le niveau et vous faites en fait comme tous les bons chrétiens, beaucoup de bons chrétiens et beaucoup de bons pas chrétiens, j'ai pas tué, j'ai pas volé, finalement je suis en gros en règle avec Dieu. Mais c'est vrai que vous avez baissé par rapport au sermon sur la montagne terriblement le niveau. Ou alors vous ne baissez pas le niveau et vous êtes déprimé complètement. Ce qui nous permet, je dirais, d'accueillir l'exigence dans sa radicalité sans être complètement déprimé, c'est précisément la grâce. C'est le fait que Jésus nous parle de la miséricorde de Dieu, nous parle de l'amour de Dieu, nous parle de la bonté de Dieu. Donc, l'exigence et puis la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour envers le pécheur que Jésus est venu apporter. C'est le rappel toujours que nous ne sommes pas venus pour juger les personnes, pour condamner les personnes, mais nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle et pour sauver des gens. Et Jésus est venu lui-même d'abord pour cela. Et vous savez bien que lorsque nous condamnons des personnes, je dis nous parce que ça nous arrive, je pense, c'est le meilleur moyen de se rassurer soi-même. Hein, puisque lui ou elle fait quelque chose de mal, comme la femme adultère, c'est que moi je suis du bon côté. Alors peut-être bien que les gens qui n'ont pas jeté la pierre n'étaient pas eux-mêmes adultères, mais on a l'embarras du choix quand même, hein, pour le péché. Donc je veux dire, très important, très fondamental, se rappeler que même Jésus ne vient pas, lui qui est sans péché, pour condamner la femme adultère, mais il l'exhorte simplement à changer de vie. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et vous aurez remarqué que bien des différences entre chrétiens sont des différences de cette balance entre la miséricorde et l'exigence. Et je pense que si on n'est pas très attentif, c'est pour ça que je parle d'une ligne de crête, si on n'est pas très attentif, alors on va mettre l'accent complètement sur l'exigence, et dans l'histoire de l'Église, ça a été fréquent, et dans ce cas-là, on va devenir légaliste et condamnant, ou bien on va mettre l'accent, et c'est souvent un balancier dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des Églises, complètement sur la miséricorde, et là, on va souvent en arriver à appeler bien le mal, et à finalement dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est pas grave, et Dieu est là pour pardonner, etc. Donc je crois que cette tension entre l'exigence et la miséricorde, elle est constitutive de l'Église, de l'éthique chrétienne, qu'elle est quelque chose d'absolument fondamental, parce que Jésus a exprimé ça de manière magnifique, et c'est justement cette ligne-là que nous voulons suivre, mais pour être tout à fait honnête, elle n'est pas nécessairement très facile à suivre. Merci pour votre attention. Elle n'est pas trop dépassée.